Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pape François est en Terre Sainte. Il a entamé ce samedi matin le deuxième voyage apostolique de son pontificat. Objectif, commémorer le cinquantenaire de la rencontre historique entre Paul VI et le patriarche écuménique de Constantinople, Athénagoras, après des siècles de division. Un voyage en trois étapes, Jordanie, État palestinien et Israël, dont le temps fort sera la célébration écuménique dimanche soir. Elle rassemblera pour la première fois dans l'histoire tous les responsables des églises chrétiennes de Terre Sainte ou Saint-Sépulcre. Un voyage avec en toile de fond la situation régionale. Le Saint-Père a appelé à la reprise des négociations de paix en Syrie. Il a lancé un appel fervent pour la liberté religieuse au Proche-Orient et demandé que soit trouvée une solution au conflit israélo-palestinien. C'est bien sûr au pèlerinage du souverain pontife que sera consacré l'essentiel de cette émission. Un voyage strictement religieux à forte connotation écuménique, mais qui se déroule dans une région instable et troublée, un contexte que le pape François ne peut pas ignorer. Arrivé à la mi-journée samedi à Amman, première étape de son pèlerinage en Terre Sainte, le Saint-Père n'a d'ailleurs pas manqué de demander avec force une solution pacifique, plus que jamais nécessaire et urgente à la crise syrienne, une solution juste au conflit israélo-palestinien et une paix durable pour toute la région. Il a également insisté sur la légitimité de la présence des chrétiens, citoyens à part entière au Proche-Orient. Le moment le plus émouvant de cette première journée aura été sa rencontre avec des réfugiés syriens, irakiens et palestiniens sur le site du baptême de Jésus à Béthanie, en face de la ville palestinienne de Jéricho. Sortant de son texte avec des accents dramatiques, le pape François a souhaité que l'on revienne sur le chemin de la négociation en Syrie et que tous abandonnent la prétention de laisser aux armes la solution des problèmes. Nous retrouvons notre envoyé sur place, Bernard de Cotigny.
Ecco la radice del male. L'odio.
Qui vend les armes? Que trouve-t-on derrière ce marché, sinon la haine et la cupidité des marchands d'armes? Voilà la racine du mal. Qui donne aux pays en conflit les armes pour continuer les conflits? Réfléchissons et pensons à ces pauvres criminels pour qu'ils se convertissent. Le pape François a choisi les rives du Jourdain, cette minuscule oasis qui vous transporte en arrière dans les siècles, dans la Bible et les évangiles, lieu du baptême de Jésus, par lequel il prenait sur lui tout le mal du monde, pour dire haut et fort cette vérité qui fait mal. Oui, sans armes, il y aurait moins de guerre, moins de souffrance. Son arrivée sur les rives du Jourdain avait pourtant commencé de manière bon enfant, emmené par le roi de Jordanie en personne Abdallah, sur un engin motorisé pour le moins insolite, de ceux que l'on voit sur les terrains de golf, comme pour un moment de détente, un mini safari. Le pape, une fois arrivé, s'est approché pour une prière silencieuse, suivie d'une bénédiction des eaux, comme l'avait fait avant lui Paul VI. Il gagnait ensuite non loin de là l'église du patriarcat latin, toujours en construction, dont la première pierre fut posée lors du voyage de Benoît XVI en 2009. Plusieurs milliers de personnes, dont 600 handicapés et réfugiés au comble de la joie, l'y attendaient et l'accueillaient de manière très chaleureuse. Parmi eux, cette femme qui a fui de Syrie pour la Jordanie après la mort de son mari, tué par les combats, et qui, n'ayant pour abri qu'une tente pour ses 6 enfants, devait en perdre 5 dans l'incendie de son abri de fortune. Ou encore cet Irakien parti de son pays, lui aussi en guerre il y a 23 ans. À eux seuls, ils résument les drames que vivent tant de gens et de familles, de si nombreux enfants dans les pays de cette région du Proche-Orient, secoués si souvent par les turbulences politiques, les affrontements, les privations. Le pape François, visiblement très ému, n'a pas caché avoir beaucoup souhaité les rencontrer au cours de son pèlerinage en Terre Sainte, eux qui ont fait la douloureuse expérience de conflits sanglants ou de quelques limites physiques. La rencontre s'est poursuivie alors par de très beaux témoignages qui s'adressaient au pape comme à un père ou à un frère. François a finalement quitté l'estrade pour venir au contact et se laisser submerger par l'assemblée. Un bain de foule qu'il affectionne.
Le pape François avait été accueilli à sa descente d'avion à Amman par le prince Ghazi, l'un des conseillers du roi de Jordanie pour les affaires religieuses. Une fille et un garçon portant l'habit traditionnel jordanien lui ont remis 2 bouquets d'iris noirs, fleur nationale du royaume. Devant une garde militaire, il a salué des dignitaires civils et religieux, puis a pris place dans une petite voiture blanche tandis que des fidèles agitaient des banderoles sur son trajet. La cérémonie officielle de bienvenue s'est déroulée au palais royal. Après une rencontre privée avec le roi Abdallah et sa famille, le Le souverain pontife s'est adressé aux plus hautes autorités du royaume hachémite, les chefs religieux et le corps diplomatique, quelques 300 personnes rassemblées dans le grand salon du palais Jean-Baptiste Cocagne.
Un discours avec en toile de fond les conflits qui meurtrissent la région, à commencer par la crise syrienne et par le conflit israélo-palestinien. Le Saint-Père a tout de suite montré qu'il n'entendait pas les passer sous silence. Il a exprimé sa douleur face à la permanence de fortes tensions au Moyen-Orient. Tout de suite, également, il a tenu à renouveler son profond respect et son estime pour la communauté musulmane, tout en plaidant en faveur du respect de la liberté religieuse partout au Moyen-Orient et dans le monde entier. Citant Benoît XVI, il a rappelé qu'il s'agit d'un droit fondamental qui comprend la liberté de suivre sa conscience en matière religieuse, la liberté de culte, la liberté de choisir la religion que l'on juge être vraie et de manifester publiquement sa propre croyance. Et c'est un hommage appuyé que le pape François a rendu à la Jordanie, un pays qui accueille généreusement des réfugiés palestiniens, irakiens et syriens, et qui, dit le pape, mérite l'estime et le soutien de la communauté internationale. Sous les applaudissements, le souverain pontife a par ailleurs exprimé sa reconnaissance à la Jordanie pour avoir encouragé diverses initiatives importantes en faveur du dialogue interreligieux, parmi lesquels le message interreligieux d'Aman. Présente en Jordanie depuis les temps apostoliques, les communautés chrétiennes, bien que numériquement minoritaires, offrent leur contribution au bien commun de la société dans laquelle elles sont pleinement insérées. Le pape François a souhaité que sa visite en Jordanie contribue à augmenter et à promouvoir les bonnes et cordiales relations entre chrétiens et musulmans.
Un demi-million de chrétiens habitent en Terre Sainte, soit 2% de la population. Selon le Centre catholique jordanien, quelques 2 millions de catholiques ont quitté le Moyen-Orient ces 10 dernières années. Bartholoméos Ier a annoncé qu'il discuterait avec le pape François du sort des minorités chrétiennes du Moyen-Orient dimanche à Jérusalem. Dans une interview à l'agence catholique américaine CNS, il souligne que les liens puissants entre les disciples du Christ doivent être réaffirmés à l'heure où les communautés chrétiennes de la région diminuent rapidement. L'urgence est à nos portes, estime le patriarche orthodoxe, pour qui des avancées incroyables ont été réalisées dans les relations entre les églises orthodoxes et catholiques depuis la rencontre entre Paul VI et Athénagoras. Un point de vue que partage le père Franz Bouen, missionnaire des Pères Blancs. Il vit à Jérusalem depuis 45 ans. On l'écoute.
Je vois un progrès lent mais vrai dans les relations entre les églises. Depuis surtout ce passage ou cette rencontre de 1964 du pape Paul VI avec le patriarche Athénagoras, ces relations entre les chefs des églises ont commencé à changer avec cette visite et puis c'est un peu accéléré dans les années 90 quand s'est développé entre les chefs et le patriarche et les évêques un effort de se rencontrer fréquemment pour réfléchir ensemble sur la situation difficile politique, sociale, économique du pays, afin de décider ensemble que faire et que dire, et de pouvoir parler d'une seule voix devant les événements et devant éventuellement un accord qui se ferait. Et je m'en réjouis beaucoup. Actuellement, par exemple, les chefs des églises se rencontrent environ tous les deux mois, pour tout simplement fraterniser et pour parler de problèmes qu'ils ont en commun, surtout des problèmes liés à la situation extérieure, politique et économique. Même au Saint-Sépulcre, je pense que nous pouvons dire que les relations ont beaucoup amélioré. Le facteur principal, je pense, c'est le fait que les églises ont été obligées de collaborer ensemble pour la restauration de l'édifice du Saint-Sépulcre. Elles ont ainsi appris à travailler ensemble, se faire confiance et ont développé un esprit fraternel entre elles.
Le père Franz Bouen, missionnaire des Pères Blancs à Jérusalem, interrogé par Bernard de Cotigny. En début d'après-midi, samedi à Amman, le pape François a gagné en Jeep Découverte, le stade de la ville, où des dizaines de milliers de personnes étaient massées depuis des heures. Il a fait le tour à bord de sa voiture devant une foule enthousiaste agitant des drapeaux, avant de célébrer la première messe de ce voyage en présence de nombreux réfugiés chrétiens venus de Palestine, Syrie et Irak. Des milliers de chaises bleues et rouges avaient été disposées sur la pelouse face à un immense hôtel. Au cours de cette Eucharistie célébrée en italien et en arabe, 1400 enfants ont reçu leur première communion. Cyprien Viette.
C'est dans le stade international de Amman que le pape François a pu nouer le contact avec plusieurs dizaines de milliers de fidèles lors d'une messe célébrée sous les portraits des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Messe très recueillie mais aussi décontractée et chantée en arabe, durant laquelle 1400 enfants ont fait leur première communion, visiblement réjouis avec des sourires jusqu'aux oreilles par la circonstance de la présence du successeur de Pierre. Ils pourront un jour le raconter à leurs propres enfants lorsqu'eux aussi s'approcheront de ce sacrement. Le pape, dans son homélie, nous a offert une longue réflexion sur l'Esprit Saint et son action dans le Christ et en nous. L'Esprit Saint prépare, il oint, il envoie, nous a-t-il dit. La mission de l'Esprit Saint est de générer l'harmonie et de faire la paix dans les différents contextes et entre des sujets divers. Il nous faut donc lui demander de préparer la route de la paix et de l'unité. Le pape ajoutait qu'avec l'onction de l'Esprit, notre humanité est marquée de la sainteté de Jésus-Christ et cette onction nous rend capables d'aimer nos frères. Il est donc nécessaire de poser des gestes d'humilité, de fraternité, de pardon, de réconciliation. Les prémices et la condition pour une paix vraie, solide et durable. Et comme l'Esprit aussi envoie, nous sommes envoyés comme messagers de paix. Le pape devait ajouter que cette paix est un don à construire patiemment.
La pace non si può comprare.
La paix ne peut s'acheter, elle est un don à recevoir avec patience et à construire de manière artisanale par des petits et des grands gestes qui impliquent notre vie quotidienne. Le chemin de la paix se consolide si nous reconnaissons que nous avons tous le même sang et faisons partie du genre humain. Si nous n'oublions pas que nous avons un unique Père céleste et que nous sommes tous ses enfants, faits à son image et à sa ressemblance. Le pape s'est adressé alors de manière particulière aux nombreux réfugiés chrétiens provenant de la Palestine, de la Syrie et de l'Irak. Portez à vos familles et à vos communautés mon salut et ma proximité, leur a-t-il dit. Rappelons que la Jordanie a dû faire face à un flux énorme de réfugiés venus de Syrie pour échapper à la guerre. Des centaines de milliers de familles venues s'ajouter à d'autres populations réfugiées, palestiniennes et irakiennes, arrivées avec d'autres vagues d'émigration. C'est ainsi que le pape, en quittant le stade lors d'un long tour de piste, a pris les mains qui se tendaient, a répondu aux attentes inscrites sur les visages. On sait combien son charisme aide les gens dans leur quotidien et pour tous ces chrétiens du Proche-Orient, il peut s'avérer parfois, comme on le sait, dramatique et brutal.
Le Saint-Père, on l'a vu, n'oublie pas les nombreux conflits intercommunautaires qui déchirent la région. Quand il parle de rancune et de refus, il pense aussi aux divisions entre chrétiens, particulièrement perceptibles en Terre Sainte. Depuis le statu quo de 1852, 6 communautés chrétiennes se partagent et parfois même se disputent le Saint-Sépulcre. D'où l'importance de la célébration qui aura lieu dimanche dans ce lieu saint entre tous. Une prière écuménique commune avec les chefs des autres églises chrétienne du jamais vu. Le Saint-Père rencontrera 4 fois le patriarche Bartholoméos. Les 2 chefs religieux signeront une déclaration conjointe. Monseigneur William Chomaly, évêque auxiliaire du patriarche latin de Jérusalem, se souvient de la rencontre historique entre Paul VI et Athénagoras. Il a accepté de la raconter à nos envoyés sur place.
Oui, je me rappelle très bien l'épiphanie de 1964, quand Paul VI devait célébrer la messe à la grotte de Bethléem. Nous étions séminaristes et on nous a demandé d'accueillir le pape devant la grande place de la Nativité. Et nous avons attendu 1h30 avant. Il faisait 0 degré, c'était une atmosphère glacée. Je n'attendais que la fin de la visite parce que je n'en pouvais plus. Je me rappelle quand le pape est venu, il est passé, je l'ai vu aperçu pendant une minute. J'avais l'impression que c'était un ange qui marchait sur la terre. C'était émouvant, le fait de penser que le successeur de Pierre, pour la première fois, met son pied à Bethléem. Ensuite, plus tard, je relis tous les discours qu'il a fait à Bethléem, à Nazareth. Je suis les détails de sa rencontre avec Athénagoras. J'étais certain que c'était l'Esprit-Saint qui avait préparé cette rencontre. Les 2 personnages, Paul VI et Athénagoras, étaient des hommes très simples, très humbles. Et ils ont réussi à construire la confiance entre 2 églises qui se sont séparées pendant 10 siècles.
Ces 2 hommes, donc, devaient changer le cours de l'histoire, littéralement. Cela avait tout de suite des incidences, je suppose, dans le climat ambiant entre catholiques, orthodoxes. Je suppose qu'au quotidien, les choses se vivaient mal ici.
Oui, vraiment. Au point de vue officiel, il y a eu la levée d'excommunication entre les 2 églises. Un orthodoxe n'est plus schismatique pour le catholique. Un catholique n'est plus schismatique, comme on appelait l'un l'autre. Je me rappelle que mon curé, une fois, a parlé des orthodoxes comme des hérétiques pendant l'homélie. Et je ne savais pas que ma maman était orthodoxe d'origine. Et après le mariage, elle est devenue catholique. Alors après la messe, j'étais avec ma maman rentrant à la maison. Elle pleurait. Je lui ai dit, maman, pourquoi tu pleures la première fois que tu pleures après la messe? Il a dit, mais tu n'as pas entendu le curé, ce qu'il a dit des orthodoxes. C'était triste. On parlait l'un de l'autre très mal. Voilà, je me rappelle aussi que mes deux cousines se sont mariées chez les orthodoxes avant la visite du pape. Elles étaient excommuniées. Mon papa n'accepte plus de leur dire le bonjour pendant 15 ans. Donc le mariage est devenu presque un deuil. Mais maintenant, s'il y a un mariage entre un catholique et un orthodoxe, c'est la fête pour tous, il n'y a aucun problème.
Monseigneur William Chomaly, évêque auxiliaire du patriarche latin de Jérusalem, interrogé par Bernard de Cotigny. À Bethléem, Tel Aviv et Jérusalem, les derniers préparatifs sont en cours pour l'arrivée du pape François. Dimanche matin, le Saint-Père quittera très tôt la Jordanie pour la Palestine, deuxième étape de son voyage Bethléem, où il sera accueilli par le président Mahmoud Abbas avant de célébrer la messe sur la place de la Mangeoire devant la basilique de la Nativité. Quelques 10 000 fidèles y sont attendus. Érigée au IVe siècle et classée au patrimoine mondial, la basilique de la Nativité attire 2 millions de pèlerins chaque année. Sa toiture a fait l'objet d'une importante restauration. Après la messe, le pape François posera un nouveau geste fort en déjeunant en compagnie de familles chrétiennes pauvres de la ville natale de Jésus avant de visiter un camp de réfugiés qui accueille près de 15 000 Palestiniens et de partir pour Tel Aviv où il sera accueilli par les autorités israéliennes. La soirée enfin sera consacrée au volet œcuménique de ce voyage. Trois cardinaux de la curie romaine accompagnent le souverain pontife. Parmi eux, le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales. Il voit dans ce voyage une triple dimension: un temps de ressourcement pour l'Église sur la terre de Jésus, un encouragement pour l'unité des chrétiens et un encouragement aux églises locales pour qu'elles persévèrent dans leur mission sur place malgré toutes les difficultés politiques et économiques.
Pour moi, le pape, en allant dans la terre de Jésus, veut faire que toute l'Église mette son attention sur la personne de Jésus. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il enseigne, c'est un retour à l'Évangile. En allant dans la terre sainte, le Saint-Père désire nous dire, Église tout entière, si vous voulez être vraiment témoin de Jésus, vous devez reconvertir vous-même à la source de la vie chrétienne qui est l'Évangile et qui est Jésus même. Donc c'est un appel à la conversion de toute l'Église en allant dans la Terre Sainte, c'est le message du pape de conversion. Après, il y a un message pour l'unité des chrétiens, parce que c'est l'objectif principal du voyage, la rencontre avec sa sainteté Bartholoméos, et donc c'est un appel à toute l'Église pour continuer à travailler pour l'unité de l'Église. Troisièmement, je pense que c'est un encouragement pour l'Église locale, pour nos frères catholiques qui vivent dans la Terre Sainte, qu'ils ne la quittent pas, qu'ils restent, qu'ils continuent à être des témoignages vivants de la présence de Jésus dans cette terre.
Le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, interrogé par notre collègue du service italien Alessandro De Carolis. Dans l'avion qui le conduisait à Amman, le pape François a reconnu, devant les 70 journalistes qui voyagent à bord de l'avion papal, qu'il s'agit d'un voyage épuisant, y compris pour les journalistes. En les saluant un par un, il a promis de donner une conférence de presse sur le vol du retour. « Je descendrai dans la fosse, comme le prophète Daniel a-t-il plaisanté, mais je sais que les lions ne mordent pas. » C'est une première. Deux martyrs de Birmanie ont été béatifiés ce samedi en Italie. Un missionnaire italien, le père Mario Vergara, de l'Institut Pontifical pour les Missions étrangères, et un catéchiste laïc birman, Isidore Njekolat, fusillé en 1950. Le père Mario Vergara était missionnaire chez les Karen, très pauvres. Après le déclenchement de la guerre civile lors de l'accession à l'indépendance de la Birmanie en 1948, les tribus locales rebelles commencèrent à menacer les missionnaires catholiques qu'elles considéraient comme les héritiers de l'ancien gouvernement colonial britannique et comme les espions du nouveau régime. Le père Vergara n'hésitera pas pourtant à dénoncer avec courage les abus commis par la guérilla contre la population civile. Il sera arrêté avec son catéchiste qui l'avait soutenu dans sa lutte. À Cannes, le jury œcuménique a décerné son prix au film Timbuktu d'Abderrahman Sissako, une œuvre qui raconte la vie et la résistance dans cette ville malienne d'hommes et de femmes qui veulent vivre selon leur culture et leurs traditions tout en intégrant les moyens modernes de communication. Le jury œcuménique a voulu récompenser ce film qui dénonce de manière forte mais subtile les horreurs issues d'une vision extrémiste de la religion. Le jury œcuménique, qui fêtait ses 40 ans, a par ailleurs rendu hommage avec un prix spécial au réalisateur Jean-Luc Épinal Pierre Dardenne, dont l'œuvre, empreinte d'une grande humanité, traite des problèmes actuels dans un monde difficile en parlant de survie, de réconciliation et d'espérance. Sur l'île tanzanienne de Zanzibar, musulmane à 98%, les chrétiens ont peur. Selon la Fondation Aide à l'Église en détresse, les violences se sont accrues en 2013. AED rapporte le témoignage d'un enseignant catholique qui craint que sa femme et ses enfants soient forcés de se convertir à l'islam. De passage à Rome le mois dernier, le président de la conférence épiscopale de Tanzanie, Mgr Chao, a confirmé à l'agence Vatican Fides que des extrémistes musulmans voudraient éliminer les chrétiens de la société, même si leur position ne reflète pas l'opinion de la majorité des musulmans locaux qui sont ouverts et tolérants. À Zanzibar, les intimidations contre les chrétiens dérivent selon lui d'un mélange de motivations politiques, notamment le débat sur les réformes constitutionnelles, et de motivations religieuses ou plus simplement criminelles. Dernier volet de ce magazine consacré aux commentaires de l'Évangile du 25 mai, le sixième dimanche de Pâques. C'est l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, versets 15 à 21. « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. »
L'Évangile de ce sixième dimanche de Pâques prolonge celui du dimanche précédent. Jésus continue son discours par une invitation à demeurer fidèle à ses commandements et par une mise en garde contre le monde. Pour nous aider à vivre ces exigences, le Seigneur nous promet de nous envoyer un défenseur, un avocat, qui n'est autre que l'Esprit de vérité, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui nous guide au quotidien. Tout d'abord, Jésus affirme que le monde est incapable de recevoir l'Esprit Saint. Les disciples, eux, le peuvent, car l'Esprit Saint demeure auprès d'eux et est en eux. Ce qui distingue le disciple du monde, c'est donc l'Esprit Saint qui est en lui. Non pas seulement à côté de lui, mais réellement en lui. Comment comprendre cette présence de l'Esprit-Saint en nous? Est-ce vraiment possible? Pour nous aider à comprendre cette affirmation de Jésus, nous pouvons penser à l'Eucharistie. Lorsque nous communions, Jésus est réellement en nous. C'est l'incroyable dignité que nous offre le baptême, reçu gratuitement comme un don de Dieu. Par le baptême, nous devenons capables de recevoir Jésus dans l'hostie consacrée. Par la confirmation, c'est l'Esprit Saint qui vient en plénitude habiter en nous. La mise en garde de Jésus contre le monde ne résulte donc pas du fait que le monde est mauvais, mais du fait qu'il ignore l'Esprit Saint. Nous ne devons donc pas voir le monde d'un regard méfiant et accusateur, mais plutôt comme un lieu qui est en attente de la venue du Saint-Esprit. En ce sens, le monde doit nous attirer car il est un appel à la mission. Mais Jésus nous prévient. Le monde a aussi une puissance séductrice et nous avons besoin de l'Esprit Saint pour ne pas succomber. Ensuite, Jésus affirme qu'il ne nous laissera pas orphelins. Jésus s'en va vers son Père et les disciples ont peur de rester seuls sans leur maître. Effectivement, depuis la résurrection de Jésus jusqu'à nos jours, nous vivons une certaine forme d'absence de Jésus. Il n'est plus visible comme il était il y a 2000 ans. Mais nous ne sommes pas orphelins pour autant. Saint Paul affirme que c'est l'Esprit Saint qui nous fait nous écrier vers le Père. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». C'est donc l'Esprit Saint qui nous rappelle que nous sommes des fils rachetés par le sang de Jésus. Être fils de Dieu signifie que le Seigneur prend soin de nous. Il est ce bon berger qui va chercher sa brebis lorsque celle-ci s'égare. Il est le Père Céleste qui sait tout ce dont nous avons besoin. S'il prend soin des oiseaux du ciel, ne fera-t-il pas bien plus pour ses fils? Enfin, l'Esprit Saint est celui qui nous maintient dans l'amour. Jésus dit « Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. C'est parce que nous aimons le Christ que nous gardons ses commandements. Ce n'est ni par crainte, ni par devoir, mais par amour pour celui qui a donné sa vie pour nous. En ce jour, prions pour recevoir en abondance l'Esprit Saint, afin que nous puissions vivre dans le monde sans crainte, sans peur, mais avec cette force des fils et des filles de Dieu qui désirent porter le Christ au monde.
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à nous retrouver sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican. En français, bon dimanche à tous.